Bonjour, merci d'être venu pour cette troisième séance d'Objectif Bac consacrée aujourd'hui aux sciences de la vie de la Terre. Nous accueillons Vincent Audebert, professeur, auteur d'un manuel chez Bordas, qui est consultable à la bibliothèque.
Bien, bonsoir. J'enseigne donc les SVT dans un lycée au nord de Paris. Et ce soir, plus fort, d'accord. Hein. Et donc ce soir, le challenge est de réussir à faire le tour du programme de Terminal S SVT en une heure. Voilà. Alors c'est la commande qui m'a été passée. Et en fait, pour faire ce tour d'horizon là, du programme, j'ai choisi un thème transversal qui permet de retrouver un petit peu tout ce que vous avez vu au cours de l'année. Et ce thème, c'est celui de l'évolution. En effet, l'évolution, c'est la grande théorie unificatrice de toute la biologie. Vous savez qu'on la doit à Charles Darwin, qui a publié le 24 novembre 1859 de l'origine des espèces par la lutte pour la vie, la sélection naturelle. Et depuis, à partir d'un grand nombre de recherches dans tous les domaines, on a pu montrer donc que cette évolution permettait de comprendre toutes les grandes fonctions de la biologie. Donc le programme de Terminal S, finalement, permet d'aborder ce thème de l'évolution à travers, comme vous avez pu le voir, les notions de parenté des êtres vivants, les notions de reproduction sexuée, de génétique, voire même d'immunologie. Alors, on va essayer de donner du sens à tout ce que vous avez vu cette année, donc en reprenant petit à petit l'évolution du vivant. Et je vais essayer de vous montrer que toutes les parties que vous avez pu étudier, finalement, forment un tout cohérent, qui permet justement de mieux comprendre l'évolution des espèces. Alors, on dit souvent, là, quand on démarre ce thème en classe, l'évolution, finalement, qu'est-ce qu'on en sait ? Parce que personne n'y était pour voir, finalement, comment on sait qu'il y a eu une évolution du vivant, comment on peut retracer cette évolution. Et s'il y a eu évolution des espèces, finalement, comment expliquer que, comme Darwin nous l'avait déjà dit, les espèces puissent se former les unes à partir des autres, finalement se transformer comme ça au cours du temps. Quel est le moteur de l'évolution ? Alors, pour rechercher les traces de cette évolution, l'idée la plus commune, c'est de se dire, il suffit d'aller observer des fossiles. On a tous en tête un certain nombre de fossiles très célèbres. Je vous ai mis ici l'image de Lucie, qu'on peut trouver dans la littérature, vraiment, ou aussi au musée d'histoire naturelle à Paris, un moulage en tout cas. Je vous ai mis ici d'autres fossiles très connus. Et bien, en fait, l'étude de ces fossiles, c'est une étude qui est nécessaire, mais qui n'est absolument pas suffisante pour prouver l'évolution. C'est si vrai qu'il y a encore peu de temps, on a vu arriver un livre superbement illustré dans tous les lycées de France, livre qui était complètement contre l'évolution et qui démontrait même que l'évolution n'existait pas par l'étude des fossiles. Donc vous voyez que l'étude des fossiles ne permet pas, en tout cas elle seule, de démontrer l'évolution du vivant. Pour démontrer l'évolution du vivant, pour retracer l'évolution, on a en fait recours à l'observation de la biodiversité actuelle. C'est l'observation du vivant aujourd'hui qui finalement nous prouve le plus l'évolution. Alors je vais essayer de vous démontrer ça. Quand on observe le vivant, on observe tout d'abord une infinie diversité, ce qu'on appelle la biodiversité, on en parle beaucoup, il y a des millions d'espèces sur la planète, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur le nombre d'espèces qui peuplent la planète, ça va des espèces les plus microscopiques aux espèces les plus grosses, on a une infinie diversité, peut-être 30 millions d'espèces. Mais pourtant, quand on regarde ces espèces, on est frappé par un paradoxe, c'est que elles sont très différentes les unes des autres, mais pourtant, il existe entre elles une profonde unité. Alors ça, vous l'avez vu cette année, je le reprends les grandes lignes. Vous savez que toutes les espèces vivantes sur la planète sont toutes formées de cellules. Cette unité cellulaire qu'on retrouve chez les prokaryotes ou chez les eucaryotes, elle se retrouve même chez les espèces fossiles. J'ai mis ici un document intéressant qui compare une coupe complètement actuelle. C'est une de mes élèves qui a réalisé ça l'année dernière. Et puis, en parallèle, je vous ai mis ici des coupes réalisées dans des fossiles trouvés au Maroc. C'est des arbres fossiles dans lesquels on peut faire des coupes suffisamment fines pour les observer au microscope. Mais on retrouve l'unité cellulaire aussi chez les fossiles. Vous savez aussi que les êtres vivants sont constitués des mêmes éléments chimiques. Il y a une profonde unité chimique dans le vivant. On retrouve ça chez les glucides, les lipides, les protéines, nos acides nucléiques. Autre unité de tous les êtres vivants, c'est cette unité de l'expression de l'information génétique. On vous a montré que l'information génétique était portée par la molécule d'ADN qui s'exprimait par la fabrication lors de la transcription d'ARN messager, ARN messager qui était ensuite traduit en protéines. Ce mécanisme, ce code génétique, il est universel. Il est tellement universel qu'on arrive aujourd'hui à prendre des séquences d'ADN d'une espèce, mettre cet ADN dans une autre espèce, et l'espèce qui reçoit cet ADN, finalement, exprime l'ADN comme l'organisme donneur. C'est l'origine des OGM, vous savez tout ça. Donc une profonde unité dans la structure et dans le fonctionnement du vivant. Cette unité du vivant, on peut même la retrouver d'une manière un petit peu plus précise quand on rentre dans le détail de l'observation des caractères. J'imagine qu'on vous a montré cette image cette année. C'est la comparaison de membres chez différents vertébrés qui ont quatre pattes, les tétrapodes. Si vous comparez ici le membre chez le manchot, la martre, le dauphin, la chauve-souris, on est frappé de retrouver la même constitution des pattes. Les pattes, elles sont systématiquement constituées à partir de la connexion avec la ceinture, l'épaule par exemple, de membres constitués d'un élément, ici, que vous retrouvez là, que vous retrouvez là. Alors ça sera l'humérus ou ça sera le fémur. Vous retrouvez ensuite, connecté à cet os unique, vous retrouvez deux os, le radius, le cubitus. Et puis vous retrouvez ensuite, après ces deux os, une multitude de petits os là, qui vont former les carpes, métacarpes, etc. Vous retrouvez une même constitution donc dans les membres des vertébrés qui ont quatre pattes. C'est-à-dire que finalement, le plan d'organisation est identique. Alors il y a bien sûr des différences ensuite, mais quelque part, la recette de fabrication du membre est la même chez tous les vertébrés qui ont quatre pattes. Donc une unité aussi d'organisation. Derrière cette unité d'organisation, derrière cette profonde unité du vivant, il y a évidemment l'idée d'un héritage. Parce que si on fabrique les choses de la même manière, si on a le même ADN, qu'on décode de la même manière, que l'on est formé des mêmes cellules avec les mêmes éléments chimiques, qu'ensuite on fabrique des organes de la même manière, c'est que quelque part on a reçu en héritage l'information qui permet de mettre en place ces cellules, ces organes. C'est l'idée d'un ancêtre commun qui est derrière tout ça. Ici, vous avez une vision très moderne de l'évolution, buissonnante, avec au départ un ancêtre commun à toutes les espèces. On l'appelle aujourd'hui LUCA, Last Universal Common Ancestor, LUCA. Et puis, à partir de cet ancêtre commun, une diversification. La seule manière scientifique d'expliquer le paradoxe de l'unité et de la diversité du vivant, c'est-à-dire que ça soit très différent aujourd'hui, mais très différent en gardant un grand nombre de points communs, c'est d'imaginer une évolution à partir d'un héritage commun et ensuite une diversification dans différentes directions. Si je reprends les êtres vivants de tout à l'heure, quand je regarde tous ces êtres vivants, je peux dire que, par exemple, celui-ci-là, c'est un être vivant qui a des plumes. Et comme tous les êtres vivants qui ont des plumes, il a aussi des pattes, des ailes. Il a aussi des vertèbres, une colonne vertébrale. Vous voyez ? Si je prends celui-ci ou celui-là, ou encore celui-là, il n'y a pas de plumes, mais il a des poils. Mais tous ceux qui ont des poils ont aussi des pattes, de la même manière, je vous ai montré le modèle comme tout à l'heure, ils ont aussi une colonne vertébrale, etc. On voit donc que tous ceux qui ont des plumes ont des pattes, ont des vertèbres, mais tous ceux qui ont des vertèbres et des pattes n'ont pas forcément des poils, ils peuvent avoir des plumes. Et tous ceux qui ont des vertèbres et des pattes peuvent avoir aussi une peau qui est dénuée de ni de plumes, ni de poils, mais une peau qui est nue. Vous voyez, donc on a un emboîtement des caractères dans le monde vivant. On a des groupes plus ou moins grands de partage de caractères. Tous ces êtres vivants, celui-là, 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 ici, là, mais pas celui-ci, partagent le fait d'avoir des vertèbres, une colonne vertébrale. Par contre, dans tous ces êtres vivants, seuls ceux-ci partagent le fait d'avoir des membres. Et dans tout cela, seuls ceux-ci partagent le fait d'avoir des poils. La seule manière d'expliquer cet emboîtement dans un sens et pas dans l'autre, c'est d'imaginer que les caractères sont apparus les uns à la suite des autres au cours de l'évolution. Les caractères partagés par le plus grand nombre sont apparus en premier, les caractères partagés par le plus petit nombre sont apparus plus tard. La preuve de l'évolution aujourd'hui, c'est celle-ci, et c'est pas l'utilisation des fossiles. Je précise encore tout ça. Hein, à partir de là, vous voyez cet arbre de l'évolution, on va le retrouver de cette manière-là. On va partir pour retrouver l'ancêtre commun ici à tous. Ben, celui-là, il partageait ce que partagent tous les êtres vivants. Et ensuite, on va dessiner les différentes branches par le partage de caractères, cette fois plus restreints. Je vais vous montrer ça. Si je prends cet exemple-là, vous voyez, j'ai mis ici un grand nombre d'espèces, là, du gorille, le babouin, le tarsier, l'homme, l'oreillard, là c'est une chauve-souris, l'aigle, le crocodile, le lézard, la salamandre, la sardine, la lamproie. Eh bien, si je fais ça, je peux voir que tous partagent le fait d'avoir des vertèbres, mais seuls certains partagent le fait d'avoir une mâchoire, et seuls certains partagent le fait d'avoir des pattes, seuls certains partagent le fait d'avoir ce que l'on appelle un amnios, la poche des os, hein, qui protège l'embryon lors du développement. Seuls certains, maintenant, partagent le fait d'avoir des poils. Et parmi ceux qui ont des poils, certains partagent le fait d'avoir des ongles plats. Vous voyez que par cet emboîtement de caractères, je suis amené à faire des groupes, ici, bah, qui sont de plus en plus grands, à mesure que, quelque part, je recule dans le temps. Et l'évolution, finalement, c'est l'accumulation successive d'innovation, de nouveautés évolutives. Il faudra qu'on trouve l'origine de ces innovations plus tard. Retracer l'évolution, c'est en fait chercher, non pas qui descend de qui, comme on a eu pendant très longtemps l'habitude de faire, mais qui est plus proche de qui. En montrant qui est plus proche de qui, je suis amené à faire des groupes qui reflètent la manière dont les innovations se sont produites au cours du temps. Maintenant, si je replace ça, voilà, c'est ce qu'on appelle un arbre phylogénétique. Si je replace ça au cours du temps, c'est-à-dire si cette fois j'utilise des données fossiles, un raisonnement simple consiste à dire que un fossile, eh bien, il possède un certain nombre de caractères, et que donc l'innovation, elle est au moins aussi vieille que le plus ancien fossile qui la possède. Vous voyez, par exemple, quand est-ce qu'on a eu l'apparition des pattes ? On n'y était pas pour le savoir. Mais par contre, si on trouve un fossile avec des pattes qui est daté dans des roches à 350 millions d'années, on peut dire que l'innovation génétique, elle est au moins aussi vieille que 350 millions d'années. Si je trouve ensuite les premières traces de fossiles ayant un amnios, alors c'est pas l'amnios qu'on trouve, mais ce sont les œufs, les premiers œufs qu'on va trouver pondus à terre. Si on les trouve à 300 millions d'années, vous voyez qu'on peut resituer à 300 millions d'années l'innovation. On peut faire la même chose pour toutes les innovations qui sont sur cet arbre, et vous voyez qu'en fait, l'arbre construit à partir de l'observation actuelle du vivant est cohérent avec les données fossiles. C'est-à-dire que l'histoire que l'on raconte ici s'est bien déroulée au cours du temps. On peut aller plus loin et replacer l'homme hein, dans ce grand buisson de l'évolution. Vous avez vu tout à l'heure, je l'ai replacé au sein des primates. Ici, je peux aller plus loin au niveau des primates, regarder des caractères qui sont encore plus précis et qui sont partagés par un plus petit nombre d'espèces. Je peux regarder, par exemple, le fait que, outre le fait d'avoir des ongles, les primates partagent le fait d'avoir des empreintes digitales, le fait de pouvoir faire ce mouvement-là, hein, de rotation du poignet, de pronation-suffination, le fait de pouvoir opposer les doigts, par exemple. Tout ça sont des caractères que l'on ne trouve que chez certaines espèces, donc qui sont bien issus, finalement, d'une innovation génétique. Parmi tous ceux qui partagent ce caractère-là, seuls certains ont les orbites hein, qui sont complètement fermées au niveau de l'os du crâne. Seuls certains n'ont plus de rhinarium. Le rhinarium, c'est le museau avec les petites vibrisses, là, un petit peu comme chez les souris, chez les chiens, par exemple. Hein seuls certains n'ont plus de queue. Et c'est parmi tout cela qu'on trouve, finalement, nos plus proches parents, qui définissent le groupe que l'on appelle hominoïde. Vous voyez ? On arrive comme ça, petit à petit, c'est comme des poupées russes, finalement, à remonter le fil de l'évolution. Et quand on étudie les fossiles, eh bien, c'est bien les fossiles qui ont une absence de queue, qui sont apparues plus récemment dans ce groupe des primates par rapport aux fossiles qu'on peut retrouver encore avec un rhinarium. Donc voici quelque part l'arbre ici de ce groupe des primates pour resituer l'homme ici parmi ses plus proches parents qu'on appelle les hominoïdes. Parmi les hominoïdes, on peut montrer que l'homme est plus proche en fait du gorille et des chimpanzés qui forment le groupe des hominidés. Voici nos plus proches parents, hein. L'orang-outan, les chimpanzés avec le bonobo, les gibbons et le gorille. Ces grands singes sont tellement proches les uns des autres que le travail que je viens de vous décrire de comparaison de données anatomiques n'est même pas suffisant pour les distinguer tous, c'est-à-dire distinguer les parentés plus proches au sein du groupe des hominidés. Pour ce faire, on a recours à des données qui sont des données moléculaires. Le raisonnement est assez simple, on vous l'a expliqué cette année. Le raisonnement, c'est de se dire que plus des espèces ont divergé il y a longtemps, plus elles ont eu une histoire évolutive indépendante. Et donc plus les innovations génétiques, c'est-à-dire les mutations sur leurs gènes, se sont effectuées d'une manière différente. Plus la divergence est lointaine, plus aujourd'hui les espèces se distinguent par leur ADN. Et quand on fait ce travail-là sur un certain nombre de molécules, on peut arriver à montrer que c'est avec le chimpanzé qu'on partage la séquence d'ADN la plus proche. Pour cette molécule-là, par exemple, ici c'était 11% de différence avec le chimpanzé par rapport au gorille. En fait, la différence entre les molécules reflète ce qu'on appelle la distance évolutive. Plus il y a de différence, plus la distance entre deux espèces, c'est-à-dire le moment où les deux espèces ont divergé dans leur histoire évolutive, est éloignée dans le temps. Alors, le chimpanzé, les chimpanzés avec le bonobo, ils sont tellement proches de nous qu'on peut même observer leurs chromosomes, comparer leurs chromosomes avec les nôtres. Et on se rend compte, en comparant ici, vous avez H, l'homme, C, le chimpanzé, que le karyotype, c'est-à-dire l'ensemble des chromosomes de l'homme et du chimpanzé, sont pratiquement identiques. Il y a 13 chromosomes pour lesquels il n'y a pratiquement rien à dire entre l'homme et le chimpanzé. Il y a plus de 98% de l'ADN qui est en commun. En fait, quand on les compare, on ne peut montrer que quelques différences. Alors, c'est une partie de chromosome qui était d'un côté qui est passée de l'autre. Vous voyez ce qu'on appelle des inversions. Quelques petits ajouts de chromosomes qu'on peut retrouver chez l'homme ou chez le chimpanzé. J'en profite pour montrer qu'il y a des innovations génétiques qui ne se trouvent que chez le chimpanzé. C'est-à-dire que, quelque part, depuis la divergence avec l'ancêtre commun avec le chimpanzé, il y a eu des innovations génétiques chez le chimpanzé, pas chez l'homme. Ça montre rien. Bien, contrairement à une pensée courante, que nous ne descendons pas du chimpanzé, nous ne descendons pas du singe, l'homme ne descend pas du singe. L'homme partage un ancêtre commun avec le chimpanzé. C'était ni un homme, ni un chimpanzé, ni un gorille, c'était un grand singe. On n'était pas là pour le savoir, on ne peut pas imaginer exactement comment était ce grand singe-là. Mais à partir de cet ancêtre commun, il y a eu une évolution vers le chimpanzé, une évolution vers l'homme, qui est marquée par des innovations génétiques qui ne se trouvent que chez l'homme ou que chez le chimpanzé. Vous voyez, si je reprends l'image qui est ici, le dernier ancêtre commun, il est là. À partir de là, c'est l'histoire des chimpanzés. À partir de là, c'est l'histoire de l'humanité. Et si on veut répondre à la question de l'origine de l'homme, si on veut rechercher l'origine de l'homme, il faut donc se concentrer sur cette branche-là de l'arbre de l'évolution. Alors, comment on fait ? Bien, si vous avez bien compris, ce dernier ancêtre commun, il a toutes les caractéristiques que partage l'homme avec le chimpanzé. Et donc, cette histoire-là, c'est l'histoire de l'acquisition de tout ce qui se trouve chez l'homme, mais pas chez le chimpanzé. Et si on veut, d'un point de vue biologique, chercher le propre de l'homme, évidemment c'est toute la question de la philosophie qui est derrière le propre de l'homme, mais au niveau du biologiste, finalement, moi je la résume comme ça. La particularité au niveau de la biologie de l'homme, de l'anatomie, c'est sa bipédie, on en parle souvent. Mais nous ne sommes pas les seuls bipèdes. J'en suis l'exemple là. Mais il y a plein d'animaux bipèdes. Vous voyez le flamant rose, par exemple, le Tyrannosaurus rex, il était bipède. La bipédie de l'homme, elle a ceci de particulier qu'elle permet la course. C'est ça qui rend la bipédie de l'homme systématique, exclusive. Et nous, elle nous permet de courir. Alors, ça s'accompagne d'un certain nombre de modifications. Je ne vous refais pas tout le cours de terminale, mais vous vous rappelez certainement que ça s'accompagne de l'élargissement du bassin, qui va être ici plutôt court plus court que celui des grands singes et beaucoup plus évasé en forme de corbeille. Ça permet une plus grande assise au niveau des fessiers. On va retrouver une différence majeure au niveau des fémurs qui vont être, vous voyez ici, plus longs et qui vont être inclinés vers l'intérieur du corps. Ça, c'est une acquisition très importante pour la course, en tout cas pour la marche pendant longtemps. C'est que lorsque je déplace ma jambe en avant, le fait que mon fémur soit incliné vers l'intérieur fait que systématiquement, ma jambe vient se placer sous mon centre de gravité. Alors que si, comme ici chez les grands singes, on a un fémur qui n'est pas incliné comme cela, bah, la marche, elle est possible, la station bipède, elle est possible, mais c'est nettement plus compliqué. Ça s'accompagne aussi du développement du col du fémur, hein, comme vous voyez là. Voilà. Des modifications au niveau de la colonne vertébrale, bien sûr. Des modifications au niveau des membres. L'homme a 4 courbures au niveau de sa colonne vertébrale contre 1 chez le chimpanzé. Ça s'accompagne aussi d'une modification de ce qu'on appelle le trop occipital, hein, qui permet, voyez, à l'homme, comme il est beaucoup plus avancé, d'avoir la tête au sommet de la colonne vertébrale et non plus en avant, comme chez les grands singes. Ça, ce sont des acquisitions qui sont le propre de l'homme. On a des modifications au niveau du crâne. Le volume crânien qui est beaucoup plus développé, 1400 cm3 contre à peu près 400-450 cm3 chez les grands singes. La face est aussi plus plate. On parle de face, pardon, orthognate. On a le développement d'un menton, d'un nez et d'un front, qu'on ne retrouve pas ici, alors qu'on a un bourrelet susorbitaire très développé chez les grands singes. À côté de ces acquisitions anatomiques, hein, qui sont liées, on le sait aujourd'hui, à un certain nombre d'innovations génétiques, on a aussi, alors je fais une passerelle vers le cours de philo, une capacité cognitive, intellectuelle chez l'homme qui n'est pas celle des grands singes. Pour illustrer ça, je me suis permis de mettre ici cette magnifique sculpture d'un artiste belge. Nous, on sculpte les chimpanzés. Le contraire, pour le moment, on ne l'a pas encore observé, même si on a observé bon nombre de comportements chez les chimpanzés qu'on imaginait le propre de l'homme par le passé. Je pense à l'utilisation d'outils, par exemple. Voilà. Le propre de l'homme, c'est évidemment cette capacité à se projeter dans son environnement, cette capacité d'abstraction, son langage, et peut-être, on en a des témoignages récents, sa capacité d'autodestruction. Une des capacités aussi de l'homme, et je voulais l'illustrer avec cette image, en fait, c'est mon premier ordinateur. C'est l'évolution technique et technologique. Le propre de l'homme, et peut-être même, on le verra pour la paléontologie, c'est ce que l'on va rechercher, c'est sa capacité à avoir une évolution qui n'est plus biologique, seulement biologique, mais qui est culturelle et technique. C'est-à-dire qu'entre les ordinateurs des années 80 et puis celui qu'on a aujourd'hui, vous voyez bien qu'on a un bond qui est complètement spectaculaire. Vous prenez n'importe quelle innovation technologique, vous voyez bien que d'une génération à l'autre, on ne cesse que d'améliorer nos techniques. Il a fallu des millions d'années pour que l'homme invente l'arc et les flèches. De l'arc et les flèches à la bombe atomique, il a fallu, 2000 ans. Hein ? Donc le propre de l'homme, c'est cette évolution technique. Je pense ici à un autre exemple qui est très marquant pour distinguer l'homme du reste du monde animal au niveau biologique. Prenez une ruche ou une termitière. Voyez, prenez des animaux sociaux. Vous regardez le fonctionnement d'une ruche aujourd'hui. Le fonctionnement d'une ruche il y a 100 ans, 200, 300, même 1000 ans. C'est la même chose. Prenez une ville humaine. Aujourd'hui, il y a un siècle, deux siècles, trois siècles. Hein. Prenez le fonctionnement, la vie d'une petite abeille, d'une petite fourmi, d'une petite termite, il y a 1000 ans, et d'un petit homme aujourd'hui, et vous voyez quelle est la différence entre l'homme et l'animal hein, en termes d'évolution. Alors, du coup, ça nous permet, là, de rechercher quelle a été cette hominisation. Parce que ce que l'on va faire, finalement, pour retrouver l'évolution de l'homme, c'est rechercher les fossiles qui vont présenter les caractéristiques que je viens de vous décrire, c'est-à-dire une bipédie systématique, des caractères crâniens qui sont le propre de l'homme, et une évolution technique et culturelle, des traces d'art, notamment. Quand on fait ce travail-là, on a trouvé depuis 1925 et la première découverte qui est l'Australopithecus africanus avec Raymond Dart, depuis 1925, on a trouvé bon nombre de fossiles présentant les caractères qui sont le propre de l'homme. Ça permet de dresser aujourd'hui un espèce de portrait de famille qui est extrêmement buissonnant. On a trouvé des tas de formes fossiles, plus ou moins anciennes. Les plus anciennes, pour le moment, sont datées autour de 6 millions d'années. On a montré qu'au cours du temps, on a eu un foisonnement de formes, et notamment entre, vous regardez ici, 1 million et 3 millions d'années, de formes qui ont coexisté. Alors, toutes, évidemment, ne sont pas nos ancêtres, hein, ont vécu en même temps. Et puis, rien ne permet de dire aujourd'hui qu'une forme est l'ancêtre de l'humanité actuelle. Il y a certainement bon nombre de fossiles encore à découvrir. Voilà. L'idée qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, voilà, grosso modo, notre histoire s'enracine quelque part en Afrique. Tous les plus anciens, les fossiles les plus anciens ont été retrouvés en Afrique. Les plus nombreux en Afrique de l'Est, mais pour le moment, le plus ancien en Afrique de l'Ouest, au Tchad. À partir de là, on distingue deux grands groupes, les Australopithèques d'une part et le genre Homo d'autre part. Le genre Homo est défini par une bipédie plus affirmée, défini par les outils et défini surtout par cette évolution technique et culturelle dont je parlais. Aujourd'hui, on distingue bien plus l'homme par les traces de son activité que par des caractères anatomiques. La différence entre tous ces fossiles-là, c'est plus une différence de degré, si vous voulez, dans les caractères, que de possession véritablement de caractères que certains ont et que les autres n'ont pas. Alors, à partir de là, comment est-ce qu'on peut expliquer cette évolution? Si les espèces descendent bien les unes à partir des autres, quel est le moteur de l'évolution? Comment expliquer, finalement, l'apparition de l'homme sur la planète, quelque part, si on veut aller jusque-là? Alors, l'idée, évidemment, numéro un, tout le monde l'a en tête, on explique toujours ça comme ça, les innovations génétiques qui s'accumulent, c'est des mutations. Donc, évidemment, je vous parlais des mutations, mais on va voir que ce n'est pas le seul mécanisme. Les mutations, effectivement, permettent de modifier une séquence de base. Une mutation, c'est le fait que lorsque une cellule se reproduit, elle duplique son ADN. Elle duplique son ADN grâce à un système enzymatique qui permet de recopier, d'une manière semi-conservative, une molécule d'ADN. Je recopie un brin, je recopie l'autre brin, et puis on a deux molécules à partir d'une molécule. Il se trouve que d'une manière aléatoire, le système enzymatique commet des erreurs, et c'est-à-dire provoque des mauvais appariements des bases dans l'ADN. Un T en face d'un C, au lieu de le mettre en face d'un G. Voilà. Et que ces petites erreurs, finalement, elles restent. Elles constituent des mutations. Et font qu'à partir d'un gène, on a une nouvelle version qu'on appelle un allèle. Alors vous le savez, ces mutations elles ne se transmettent à la descendance que si elles touchent des cellules sexuelles. Sinon, elles sont dites mutations somatiques, et puis elles restent dans l'individu. Que ça soit transmis, donc que ça soit moteur d'évolution, il faut que ça touche des cellules sexuelles. Alors ces mutations, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'elles ont différentes conséquences. Je ne refais pas tout le cours là-dessus. Des conséquences au niveau des protéines, des conséquences au niveau des organismes. Et ce que je voudrais surtout vous montrer, c'est que de petites causes, comme ces petites mutations, peuvent avoir de grands effets. Vous voyez ici une mouche très célèbre, qui a une caractéristique, vous l'avez certainement vu tout de suite, elle a, à la place de ses antennes, là, une paire de pattes. Si je vous la montre en microscopique et électronique à balayage, on le voit encore mieux. Voici cette petite mouche qui est la drosophile, bien connue des généticiens. Vous voyez qu'au niveau des antennes, elle a des pattes. Alors comment ce monstre, entre guillemets, a été obtenu? Il a été obtenu simplement en provoquant l'expression chez l'embryon, là, d'un gène qui normalement s'exprime au niveau de cellules qui sont destinées à faire les pattes. C'est-à-dire que toutes les cellules de l'embryon ont les mêmes gènes, mais qu'en fonction de la destinée, dans l'évolution, dans le développement de l'embryon des cellules, certains gènes s'expriment et pas d'autres. Si on force ce gène qu'on a appelé antennapédia à s'exprimer dans les gènes, dans les cellules qui normalement donnent des antennes, on fait apparaître des pattes. On a étudié profondément évidemment ces gènes, à l'origine de ce qu'on appelle des mutations homéotiques, de changement d'organes, et on a découvert que ces gènes, qu'on appelle aussi gènes du développement, sont des gènes qui codent pour des protéines qui, en fait, sont susceptibles d'activer d'autres gènes. C'est-à-dire qu'en activant un gène, on active en cascade des centaines d'autres gènes. Et donc, une modification d'un de ces gènes peut avoir comme caractéristique la modification d'un organe entier. Une petite cause peut avoir de grands effets. des mutations très limitées sur le plan génétique peuvent avoir des conséquences énormes sur le plan phénotypique. Ces gènes homéotiques, on en a trouvé d'autres. Hein. On a trouvé, par exemple, chez la drosophile, ce gène qu'on a appelé ILS. Si on mute ce gène, la drosophile ne met pas en place son œil. Si on force ce gène à s'exprimer dans des cellules qui normalement donnent des ailes, vous voyez qu'on fait apparaître un petit œil sur l'aile. On a retrouvé ce gène chez la souris. Ce gène, quand il est muté, l'œil se développe très mal. On l'a appelé small eye, ce gène. On a retrouvé un équivalent de ce gène chez les humains. Si ce gène est muté, ça provoque une maladie qui fait que les gens sont aveugles de naissance. On appelle ça l'aniridie. Et le gène aniridia, le gène small eye chez la souris, le gène eyeless chez la drosophile sont des gènes qui sont extrêmement proches. Regardez autre chose. On a dans le développement aussi un effet de ces gènes du développement sur la chronologie des événements. Et en fait, on s'est rendu compte que pour bon nombre d'organes, c'est la durée selon laquelle s'expriment ces gènes qui déterminent ou non le développement d'un organe. Je prends un exemple. Chez les dauphins, vous savez bien qu'on n'a pas quatre pattes chez les dauphins, il n'y en a que deux. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi, un niveau évolutif, quoi. Hein, au niveau des nageoires, hein, je compare ça. Vous voyez ici des embryons de dauphins, 24 jours et 48 jours. Vous voyez ici l'ébauche des membres. Celui-ci va se développer. Vous voyez que celui-ci régresse. J'avais fait ce cours il y a quelques temps à une classe de terminale. Et quelques semaines après, dans le journal qui est distribué gratuitement dans le lycée, il y avait cet article-là. Mystère autour d'un dauphin, vous voyez, à 1, 2, 3, 4 nageoires. On a découvert ce dauphin là, quelque part, ici. Et en fait, ce n'est pas du tout étonnant. C'est quelque part une mutation qui est survenue lors du développement là, de ce dauphin qui fait que, en fait, les gènes qui arrêtent de s'exprimer pour donner les pattes se sont exprimés quand même. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque part un retour en arrière dans l'évolution. On sait aujourd'hui que les premiers cétacés terrestres, il y a 50 millions d'années, ils avaient quatre pattes. Et qu'en fait, l'évolution, l'acquisition là, génétique, la mutation, ça a été finalement le fait de ne plus développer celle-ci par arrêt de l'expression des gènes. Et chez le dauphin là, précédent, celui-ci, c'est tout simplement une mutation qui fait revenir en arrière. Plus étonnant encore, regardez les chevaux. Vous savez que les chevaux, ils ont un seul doigt là, qui se développe, c'est le sabot. Hein. Ensuite, on a trouvé des fossiles d'équidés. Et on a montré chez les fossiles d'équidés, il y a 20-30 millions d'années, en fait, on avait trois doigts au niveau de la patte. Eh bien, on retrouve ça dans le développement embryonnaire chez le cheval, où on a petit à petit une régression, vous voyez, de la taille des doigts. Chez les humains, vous allez me dire, est-ce que c'est le cas ou pas ? Ben, si on regarde un embryon ici, chez les vertébrés, c'est systématiquement le cas, c'est le cas aussi chez nous. Hein. À un certain stade de développement, on a une queue. Elle existe chez les humains. Et ensuite, elle disparaît. Les gènes arrêtent de s'exprimer. Bien, vous voyez ici, c'est décrit dans la documentation médicale. Hein, ça a été observé. On a quelques exemples comme ça, un peu comme le dauphin à quatre pattes tout à l'heure. Quoi. C'est-à-dire de ces gènes qui sont finalement les reliquats de notre évolution, hein, qui ne s'expriment plus, mais qui peuvent s'exprimer dans certains cas. Voilà. L'évolution, elle est inscrite dans nos gènes. Regardez une chose, chez les petits chimpanzés, on est toujours frappé, on les trouve très mignons, etc. Hein, parce que on trouve chez eux une face qui est très humaine, si je puis dire comme ça, entre guillemets. C'est-à-dire que le petit chez les grands singes ressemble plus aux humains que finalement les adultes, qui prennent des caractères qui leur sont propres. Vous voyez, les caractères qui sont partagés avec nous sont finalement plus présents chez les jeunes que chez les adultes. On sait expliquer ça aujourd'hui. Hein. On s'expliquait ça par le fait que, regardez, lors du développement, on va avoir une acquisition progressive. Zut. Hop. Alors, si je peux cliquer, c'est quoi ? C'est pas ça. Voilà. Une acquisition progressive des caractères de l'adulte chez le chimpanzé. Et regardez chez l'homme. On a un développement qui est en fait le même, mais qui est ralenti. Si je m'amuse là, j'espère que ça va marcher. Oui. À vous remettre ça. Mmh. Ah, c'est original. Keynote a quitté d'une manière imprévue, relancé. Excusez-moi pour ce petit intermède. Ce que je voulais vous montrer, c'est que le développement est similaire au début. Voilà. Je ne vais pas recliquer, j'ai peur que ça replante. Mais le développement est similaire au départ. Et petit à petit, le chimpanzé perd ses caractères qui étaient les mêmes que les nôtres et gagne les caractères du chimpanzé. Alors que nous, on va conserver pendant plus longtemps, c'est-à-dire qu'on a un développement qui est plus long que celui du chimpanzé. Voilà. Et voilà, la même chose, mais pendant plus longtemps. Le petit chimpanzé, il a un front, il a un nez, il a un menton, il a un trou occipital en position avancée, il le perd. Si je regarde ici ce tableau de comparaison, je vais aller très vite là-dessus, mais je voudrais vous montrer quelque chose. La durée de multiplication des cellules nerveuses, les cellules nerveuses se développent pendant un temps très limité, une période critique au cours de l'embryogenèse. Cette période dure 2 semaines chez chimpanzé, elle dure 8 semaines chez l'homme. Vous voyez le décalage, le ralentissement de ce développement. Sauf que pendant ce temps-là, les neurones se forment au rythme de 5000 par seconde. La différence donc entre le chimpanzé et l'homme, plus qu'une différence génétique, c'est une différence, vous voyez, dans l'expression des gènes, dans la durée de l'expression de ces gènes-là. Et des mutations très limitées sur le plan génétique peuvent expliquer de tels décalages. Ce n'est pas parce qu'on a qu'un pour cent de différence au niveau génétique qu'on n'a pas forcément de grandes différences au niveau phénotypique. À côté de ces mutations, vous voyez, très limitées sur le plan génétique, on a des mutations de plus grande ampleur. Hein. On vous a expliqué ça. C'est ce que l'on appelle les familles multigéniques. Il se trouve que dans nos génomes, on peut trouver des gènes comme ça, qui sont assez proches les uns des autres. Ils ont une très forte ressemblance, quelques petites différences. Ils sont souvent les uns à côté des autres. Et ils forment comme ça de grandes familles de gènes. Quand on les compare, on trouve tellement de ressemblances que les généticiens nous expliquent qu'en fait, ils sont issus d'un même gène ancestral. Et qu'au cours de l'évolution, il y a eu des phénomènes de duplication et de transposition de gènes qui expliquent aujourd'hui la présence de ces gènes en tandem là, dans nos chromosomes. Des mutations indépendantes sur ces gènes font que, aujourd'hui, on peut avoir comme ça de grandes familles de gènes qui code pour des fonctions différentes. L'exemple que vous avez certainement étudié en classe, c'est celui des hémoglobines. Hein. On a dû vous expliquer que quand on regarde l'hémoglobine humaine, hein, qui permet de transporter le dioxygène au niveau de nos globules rouges, eh bien, quand on regarde, vous voyez, la naissance est ici, moins 3, moins 6, c'est par rapport à la grossesse. Ici, on a 3 mois, 6 mois. Ici, après la naissance, quand on regarde la composition de nos hémoglobines, en fait, elles ne sont pas constituées des mêmes chaînes qu'on appelle les globines. On a différentes globines, comme ça, qui sont exprimées petit à petit au cours du temps. Si on compare ces globines, on s'aperçoit qu'elles forment une famille multigénique issue de duplications progressives et de mutations. Alors, on a pu le démontrer parce que aujourd'hui, ces différentes globines ne sont pas partagées par tous les vertébrés. Certaines sont partagées, la globine alpha par exemple, par la plupart des vertébrés, et la globine delta, elle n'est partagée que par les primates par exemple. Eh bien, si je reprends ceci, je peux vous montrer que ça a une grande importance au niveau évolutif. Parce qu'il se trouve que les globines qui sont exprimées ici, et qui ne se trouvent finalement que chez les mammifères, sont des globines qui sont extrêmement efficaces pour capter le dioxygène, bien plus efficaces que les globines fabriquées par les adultes. Et donc cette innovation génétique, elle n'a permis rien de moins que la viviparité et le fait qu'une mère chez les vertébrés peut porter le petit dans son utérus et le dioxygène de la mère peut passer du sang de la mère vers le sang du fœtus parce que le sang du fœtus est plus avide que le sang de la mère en dioxygène. C'est une innovation génétique grâce, vous voyez, à ces phénomènes de duplication et de transposition et de mutation qui est à l'origine d'une acquisition évolutive vraiment importante. En fait, on a un grand biologiste, médecin, qui a dit que l'évolution, finalement, c'était en permanence faire du neuf avec du vieux. C'est-à-dire reprendre des séquences, muter ces séquences, dupliquer ces séquences, et vous voyez petit à petit arriver à bricoler hein, quelque chose de différent. Mais ce quelque chose de différent peut avoir un apport évolutif très important. C'est François Jacob hein, qui a dit que l'évolution, c'était du bricolage moléculaire qui en permanence fait du neuf avec du vieux. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que les gènes homéotiques dont je vous parlais tout à l'heure, on les a identifiés très bien chez la drosophile. Et on a pu montrer que ces gènes homéotiques formaient en fait une grande famille de gènes. Et ces gènes homéotiques provenaient, là encore, de duplication et de transposition et de mutation. On a pu retrouver, par rapport à la drosophile, par rapport à la souris, et même par rapport à l'homme, des séquences d'un ancêtre commun, hypothétique, là, hein, qui a permis, comme ça, de former, soit chez la drosophile, soit chez la souris, des complexes de gènes qui sont aujourd'hui responsables de la mise en place des organes. C'est-à-dire que pour comprendre l'évolution, il faut donc comprendre qu'au cours du temps, ben, de nouveaux gènes se créent, et qu'à partir de là, de nouvelles fonctions peuvent apparaître, notamment si ça touche ces gènes homéotiques qui eux-mêmes vont toucher un grand nombre de gènes. Une objection majeure de l'évolution pendant longtemps, c'était de dire que comment voulez-vous qu'un organe aussi compliqué qu'un œil puisse apparaître au cours du temps ? Aujourd'hui, il n'y a plus de soucis du tout pour ce genre de questions-là. On sait qu'un grand nombre de gènes homéotiques déclenchent l'activité de milliers d'autres gènes, et des mutations ou des duplications de gènes sur ces familles homéotiques peuvent considérablement changer les plans d'organisation des espèces. Alors, en plus de ces mécanismes d'innovation génétique, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évolution va être considérablement facilitée, accélérée, à partir du moment où les espèces vont se mettre à avoir une reproduction sexuée. La reproduction sexuée est un élément majeur en fait, des phénomènes évolutifs. Parce que la reproduction sexuée, c'est une machine à créer du différent, à créer des combinaisons nouvelles. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est finalement encore une fois un paradoxe qui va nous expliquer cette capacité de la procréation à créer du différent. C'est que ce sont les mécanismes qui, au départ, permettent la stabilité des espèces au cours du temps, qui sont à l'origine de leur diversification. Je m'explique. Vous voyez ici le grand-père, le père, sa petite-fille. Quand on regarde ici de génération en génération les chromosomes chez les humains, on s'aperçoit qu'on a toujours le même nombre de chromosomes. Vous savez, on a 46 chromosomes. Hein, on a des paires de chromosomes. Ici, vous voyez sur le caryotype du grand-père, chez le père et chez la fille. Donc les mécanismes de la procréation nous permettent, comme ça, d'avoir de génération en génération toujours le même nombre de chromosomes. Alors que, comme le grand-père, il y avait la grand-mère, donc elle avait elle aussi 46 chromosomes, on aurait pu imaginer qu'on en avait 92 ici, chez le fils, et ainsi de suite, de génération en génération. Pas du tout, on a des mécanismes qui permettent, justement, lors de la formation des gamètes, de séparer les paires de chromosomes. C'est une division particulière qui s'appelle la méiose. Et la fécondation permet de réunir hein, les chromosomes qui avaient été séparés. Alors cette méiose, vous l'avez évidemment étudié cette année. Je crois que ça, c'est un des points clés à bien réviser pour le bac. Hein. La méiose, c'est donc la division qui a lieu dans les organes reproducteurs et qui permet, à partir de cellules que l'on qualifie de diploïdes, c'est-à-dire qui ont deux exemplaires de chacun des chromosomes, de former des gamètes avec un seul exemplaire de chacun des chromosomes. Et donc, comme deux gamètes, un spermatozoïde, un ovule, sont réunis à la fécondation, on va retrouver le nombre de chromosomes que l'on avait au départ. Son mécanisme est extrêmement important et finalement, pour le comprendre, il y a juste une chose à retenir. C'est qu'au début de la méiose, dans une division, enfin un stade de division qu'on appelle la prophase de première division de méiose, on a un appariement des chromosomes qu'on qualifie d'homologues. On a des paires de chromosomes, deux chromosomes 1, deux chromosomes 2, deux chromosomes 3. Les deux chromosomes 1 s'unissent, les deux chromosomes 2 s'unissent, etc., etc. Quand on le dit, ils s'unissent, en fait, ils s'apparient, ils s'entremêlent l'un contre l'autre en formant ce que l'on appelle des chiasmas. Et lorsqu'ensuite, ils vont être séparés au cours de la méiose, on va donc retrouver dans les deux premières cellules formées un exemplaire de chacun des chromosomes. Et donc, on va former deux cellules qui vont contenir, en fait, un représentant de chacune des paires. Alors la méiose a ceci de plus compliqué que On va ensuite faire une deuxième division qui va séparer les chromatides des chromosomes, ce qui fait qu'au lieu de former une cellule, on va en former quatre. Hein, mais ça, il n'y a rien de compliqué. Je sépare juste ensuite les chromatides de chacun des chromosomes. L'essentiel est l'appariement des chromosomes homologues et la séparation des paires. Comme ces deux paires, il y en a une rouge et une bleue ici, elles ont les mêmes gènes, mais pas forcément les mêmes allèles, on va former des cellules reproductrices qui vont être différentes. Je prends un exemple. Ici, admettons que ce soit une de mes cellules. Ça, ça m'a été donné par ma maman, par exemple, ça par mon père. Donc au départ, c'était un chromosome soit du grand-père, soit de la grand-mère, hein, de chacun des côtés. Vous voyez, ça se transmet comme ça. À la fin, si moi, avec ces cellules, j'ai des enfants, je vais pouvoir donner à mes enfants soit le chromosome qui venait de ma mère, soit le chromosome qui venait de mon père. Et c'est ce qui explique que quand on a plusieurs enfants, bah, ils peuvent avoir des traits du grand-père ou de la grand-mère. Ils ne se ressemblent pas tous, les frères et sœurs, sauf les vrais jumeaux. Hein ? À partir de là, on voit que, en fait, sur cette distribution-là, dans un mécanisme qui, au départ, permet d'équilibrer les chromosomes pour diviser la quantité de chromosomes par deux, on crée automatiquement des différences entre les cellules. Et donc, on crée de la diversité. La méiose, elle permet à la fois la stabilité du karyotype en maintenant le nombre de chromosomes, et elle diversifie les combinaisons de gènes en donnant aux gamètes, ben finalement, un exemplaire de chaque paire de chromosomes. Je vous montre juste un document ici pour vous montrer l'importance de la méiose. Si jamais la disjonction des paires de chromosomes s'effectue mal, on peut retrouver deux exemplaires dans les gamètes, l'ovule ou le spermatozoïde. C'est ce qui est à l'origine, ensuite, avec la fécondation, des cas de trisomie. Regardez ici document pour comprendre ça très facilement. On a ici la cellule en début de méiose. Cette cellule, elle va se diviser en deux, en séparant les paires. Eh bien, je peux séparer la paire à l'anaphase de première division, soit de cette manière-là, soit de cette manière-là. C'est un phénomène qui est complètement aléatoire. C'est le hasard. C'est le hasard qui fait que les deux rouges vont rester ensemble ou qu'on va avoir un rouge, un vert. Ce point est très important. La séparation des couples d'homologues est indépendante et aléatoire. C'est ce que l'on appelle le brassage interchromosomique. Hein ? Donc un document un peu plus compliqué, vous pourrez le retrouver, je vais vous laisser hein, les documents ici. À partir d'ici, d'une cellule comme ça, avec deux gènes, vous voyez, puis quatre allèles, on va retrouver dans les gamètes, comme ça, des combinaisons différentes. Tout simplement par le jeu de l'association ici, des chromosomes à la fin de la première division de méiose. Voilà. Si on a trois paires de chromosomes, ben, c'est la même chose, hein, on va avoir une séparation aléatoire de ces couple, et donc en fait, à partir de ces trois paires, je peux avoir huit combinaisons différentes. Je vous ai mis toutes les combinaisons ici. En fait, on voit qu'à partir d'une cellule à 2n égale 6, n c'est le nombre de chromosomes différents, on va avoir huit gamètes différents, soit 2 puissance 3. En fait, il y a une relation entre le nombre de chromosomes d'une cellule et le nombre de possibles. Cette relation, c'est 2 puissance n, qui fait que chez les humains, comme on a 46 chromosomes, donc 23 paires, il y a 23 chromosomes vraiment différents, on a 2 puissance 23 possibilités de former un ovule ou un spermatozoïde. Ça fait plus de 8 millions de possibilités à chaque fois par simplement ce tri aléatoire. Donc si je rajoute à cela le rôle de la fécondation qui fait qu'il réunit deux gamètes faits au hasard, on a 2 puissance 46 possibles à chaque fois. Ça fait un nombre extraordinaire. Et à cela, vous savez que c'est pas tout. À chaque méiose, il y a en plus le phénomène de recombinaison qui se produit. C'est-à-dire que quand les chromosomes sont appariés, ils s'échangent des petits morceaux de chromosomes. C'est ce qu'on appelle le crossing over. Le crossing over permet l'échange réciproque d'ADN. Quand ils sont appariés, les chromatides ici non sœurs s'échangent une partie équivalente d'ADN. Et donc, vous voyez qu'ici, j'avais le gène, l'allèle grand B, l'allèle ici petit b, je peux me retrouver avec un grand A petit b, un petit a grand B. J'ai échangé, j'ai remanié, recombiné les chromosomes. Cette recombinaison, elle est automatique, obligatoire à toutes les méioses. Tout le temps. Il ne peut pas y avoir en fait, de méiose sans crossing over. Sauf que le crossing over, en fait, son emplacement est complètement aléatoire. Ça peut se faire ici, ça peut se faire ici, ça peut se faire ici. Voilà, à chaque méiose, c'est différent. Donc ça crée encore quelque chose de nouveau. Si bien que si je regarde vraiment le nombre de possibles à chaque reproduction chez les humains, comme les 2 puissance 23 possibilités de brassage interchromosomique vont s'effectuer sur des chromosomes qui ont déjà été remaniés, et qu'on estime qu'il y a à peu près, par crossing over, 100 possibilités de former des chromatides pour un chromosome donné, on arrive à ce chiffre absolument astronomique de 2 puissance 2300 gamètes possibles à chaque méiose. On multiplie ça par le rôle de la fécondation qui associe deux gamètes quelconques, fait chez l'homme et chez la femme, et on arrive à un nombre absolument dingue de 2 puissance 4600. Ça ne marche même pas sur les calculatrices, essayez pas. Mais c'est un chiffre qui est tellement grand qui fait que la probabilité que deux cellules œufs réalisées au hasard soient identiques dans des couples différents, elle est quasiment nulle. C'est évidemment théoriquement possible, mais c'est fortement improbable. Donc ça veut dire que jamais personne sur la planète ne vous a ressemblé point par point, sauf si vous avez un vrai jumeau ou une vraie jumelle. Donc la reproduction sexuée, elle crée sans arrêt du différent. À chaque reproduction, c'est quelque chose de nouveau. Et donc dans l'espèce, en permanence, on a des individus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et ça, ça va être le phénomène majeur de l'évolution, je vais vous montrer comment. Parce que si, quand je vais avoir des enfants, je leur donne un coup sur deux, le chromosome qui vient de mon père, donc du grand-père pour l'enfant, ou le chromosome qui vient de la grand-mère. Vous voyez, un coup sur deux. Le fait de donner un caractère, ou un gène en tout cas, c'est quelque chose de complètement aléatoire. Donc on peut modéliser ça d'une manière très simple. Moi je fais avec mes élèves, il suffit de prendre, vous voyez, des billes de couleur. On se dit, bon, mais ça, c'est un caractère donné. Le fait de donner un caractère dans la descendance, c'est quelque chose d'aléatoire. Je peux le mimer par un lancer de dé. Je jette un dé, comme ça, pour mimer ce côté aléatoire de la transmission du caractère. Ben, je vais former, comme ça, vous voyez, une population avec un certain nombre de couleurs là, dans la population des descendants, par rapport ici aux géniteurs. Et puis, si je fais ça pour une génération, ça donne une certaine population. Je relance les dés pour une deuxième population, j'ai encore quelque chose de différent. Je relance les dés, petit à petit, je vais avoir des boîtes qui vont avoir des couleurs qui vont changer tout le temps. Je prends un autre exemple ici, vous voyez. Dans une population où j'ai un certain nombre de caractères, si j'extrais un petit bout de cette population, par le simple fait que d'une génération à l'autre, je donne d'une manière aléatoire un caractère ou non, je peux avoir, dans certaines populations, un caractère qui va prédominer, ici rouge, dans une autre population, ça peut être le caractère vert. On a un exemple très intéressant pour montrer ça, c'est l'étude très sérieuse qui a été menée sur les moustiques du métro de Londres. Il y a des moustiques, il y a plein de moustiques dans le métro de Londres, ils sont là depuis longtemps, depuis la guerre, vous savez que les gens se réfugiaient dans le métro pour échapper au bombardement. Et donc on a des souches de moustiques qui se sont développées dans le métro, qui étaient au départ dans le milieu aérien, et puis ils sont arrivés, ils ne sont plus dans le métro. Et aujourd'hui, quand on regarde les lignes de métro à Londres, on se rend compte qu'on a une espèce de moustique pratiquement par ligne de métro. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les moustiques qui sont ici, les moustiques qui sont ici, ils ne peuvent même plus se reproduire les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle le phénomène de dérive génétique. Enfermé dans la ligne de métro, en fait, génération après génération, certains moustiques ont donné certains caractères dans une ligne. Dans l'autre ligne, ça s'est passé différemment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des générations après, on a eu une dérive complète par le jeu, vous voyez, des mutations et de la dérive génétique des moustiques d'une direction vers l'autre. C'est exactement les pinsons des Galapagos. Alors, je voudrais vous montrer justement un autre exemple. On parle toujours, vous avez sûrement entendu parler des phalènes du bouleau, celles qui sont claires et foncées là, dans votre cours de SVT cette année, pour la section naturelle, les pinsons de Darwin, le cou de la girafe. Bon, il y a un exemple que je trouve assez rigolo. Je vais vous parler de celui-là pour vous montrer qu'il y a un autre phénomène donc, qui agit sur cette dérive génétique. Avec cette dérive génétique, c'est ce qu'on appelle la section naturelle qu'on a depuis Darwin. Regardez ces oiseaux-là. Le plex, long-tail widow bird, qui vit, voyez, en Afrique du Sud. Voici un mâle en dehors de la période de reproduction, voici le même mâle pendant la période de reproduction. Vous voyez qu'il y a une différence majeure, c'est que pendant la reproduction, il met un certain nombre d'atouts, notamment celui-ci. Alors c'est assez intéressant, parce que justement, quand on regarde ça, on se dit que ce n'est pas forcément un avantage pour lui. Pour voler, ça a l'air bien compliqué. Pour échapper aux prédateurs, ça doit être aussi bien compliqué. Donc on s'est demandé quel était finalement l'intérêt de cet attribut. Alors, on a fait un certain nombre d'expériences. Et on a étudié ici le nombre de nids par mâle. On a pris différents mâles. On a compté combien ils faisaient de nids, c'est-à-dire finalement combien ils fécondaient de femelles. Et on a fait l'expérience suivante. On a coupé la queue d'un certain nombre d'oiseaux. Et on a regardé ensuite le nombre de nids qu'ils allaient pouvoir avoir. Ou alors on a pris un groupe témoin, on n'a pas touché la queue d'oiseau. Et on en a pris un troisième groupe où on a pris le bout de la queue là, qu'on avait coupé ici, on lui a rajouté, on lui a collé dessus. Il faut qu'il y ait une queue encore plus longue. Voilà ce que ça a donné en termes de nombre de nids. Ceux qui avaient la queue coupée ici ont vu leur succès auprès des femelles considérablement diminuer, au détriment de ceux qui avaient dans l'expérience eu la tribu rallongée. Alors évidemment, il ne faut tirer aucune conclusion autre que chez le plecte, mais on a pu montrer ici que chez le plecte, on avait donc un lien entre un caractère et la capacité de reproduction. Et ça, c'est un cas de ce qu'on appelle de sélection naturelle, c'est-à-dire qu'un attribut apporte une plus-value en termes de reproduction. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Cet attribut fait qu'il va se reproduire davantage, donc il va transmettre plus ses gènes. Et donc, de génération en génération, si à chaque fois c'est la même chose, petit à petit, le caractère qui est ici porté par, enfin, déterminé par ces gènes va se répandre dans la population. C'est la sélection naturelle. La sélection naturelle, c'est le fait qu'un caractère qui favorise la survie, c'est souvent ce qu'on présente, hein, la lutte pour la vie. Mais je voulais vous montrer avec cet exemple que c'est surtout la reproduction qui compte. Qui favorise la reproduction fait que, de génération en génération, la fréquence augmente. Et en augmentant cette fréquence, bah, les individus qui s'en sont porteurs ont plus de défendants et donc transmettent plus leurs gènes et font évoluer leur espèce. Ce n'est pas l'individu qui évolue, c'est la population qui change. Et ça, c'est l'élément vraiment très important à comprendre. C'est que vous voyez que par les mécanismes de dérive génétique et par les mécanismes de sélection naturelle, petit à petit, au cours du temps, de génération en génération, les populations se modifient et certains caractères deviennent prépondérants par rapport à d'autres. Ce qui est favorable pour la reproduction se transmet plus et se développe, ce qui est défavorable se transmet moins. Je prends un exemple un petit peu plus subtil. Si je prends une enzyme, vous savez qu'une enzyme, c'est une molécule qui agit grâce à un site actif. Un site actif qui permet, par exemple ici, vous voyez, avec ces acides aminés-là, de fixer une molécule et de permettre, de faciliter une réaction chimique sur cette molécule. Eh bien, si je m'amuse à regarder au niveau du fixateur du substrat et du site catalytique, hein, donc d'action de l'enzyme, si je m'amuse à comparer cette enzyme chez différentes espèces, je m'aperçois que si je fais une coloration dans ce qu'on appelle un degré de conservation, c'est-à-dire ce qui est commun d'une espèce à l'autre, je m'aperçois que les acides aminés qui sont ici, autour du substrat, sont extrêmement conservés, c'est-à-dire que ce sont tout le temps les mêmes chez les différentes espèces. Et je m'aperçois que les acides aminés qui sont loin, ici, du substrat, sont très différents d'une espèce à l'autre. Ça montre que ce qui est conservé par l'évolution, c'est ce qui est favorable. Et finalement, ce qui n'a pas de grande utilité ici au niveau de la molécule, bah ça évolue d'une manière aléatoire, hein, par la dérive génétique, c'est conservé ou non au gré de la reproduction d'une génération à l'autre. J'en arrive donc à cette grande idée que Théodosius Dobzhansky a énoncée de la manière suivante. Rien n'a de sens en biologie qu'à la lumière de l'évolution. Ce que l'on a aujourd'hui, ce que l'on observe chez les êtres vivants, si on essaye de comprendre finalement pourquoi les choses sont là, c'est à la lumière de l'évolution qu'il faut voir ça. Soit à la lumière d'une dérive génétique, soit à la lumière d'une sélection naturelle. Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça dans le détail. Le programme de terminale se contente de ces définitions-là. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que ces phénomènes permettent une évolution, comme ça, progressivement, de génération en génération, sur des millions d'années. Mais c'est des phénomènes, on s'est rendu compte qu'ils étaient considérablement accélérés lors de moments clés de l'histoire de la vie et de la Terre. C'est ce que l'on appelle les crises biologiques. Alors, une crise biologique est à l'étude du programme de terminale, c'est la crise biologique entre ce que l'on appelle le mésozoïque, on parlait avant d'ère secondaire, et ici le cénozoïque, on appelait avant l'ère tertiaire, c'est-à-dire la limite qui est ici, il y a 65 millions d'années, entre une période qui est le Crétacé et une période qui est ici le Paléocène, où on parle aussi de crise sinon Crétacé-Tertiaire. Pourquoi est-ce qu'on étudie beaucoup ce moment-là? C'est parce qu'on s'est rendu compte que si on regarde dans les couches qui sont en dessous, ici, dans les affleurements rocheux, on retrouve des dinosaures. Et après cette limite nette, ici, on n'en a plus. C'est donc le moment considéré comme dernier moment, la disparition ici des dinosaures. Alors, vous avez vu dans le cours cette année que ce n'est pas seulement la disparition des dinosaures, il y a des tas de formes de vie qui disparaissent il y a 65 millions d'années. C'est un avènement qu'on trouve sur l'ensemble de la planète, une crise majeure dans l'évolution qui fait qu'un grand nombre d'espèces vont disparaître. Alors, on en a eu d'autres moments comme ça dans l'histoire de la Terre. Si on reprend ici depuis 600 millions d'années, on s'est rendu compte que si on comptabilise là le nombre de familles, on a des moments comme ça où on a des chutes très importantes de biodiversité, ce qu'on appelle des crises biologiques. Bon, je ne fais pas le détail, j'en ai pas le temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que suite à ces crises biologiques, un grand nombre d'espèces disparaissent, mais un certain nombre d'espèces persistent. Et on se rend compte, quand on étudie les contenus fossiles des époques qui suivent les crises biologiques, qu'il y a, chez les survivants, une diversification très très importante. Si je prends le cas des dinosaures, là, ici à l'ère secondaire, à côté d'eux vivaient un certain nombre de mammifères, probablement de petits rongeurs, là, d'après les fossiles qu'on a pu retrouver. Suite à la disparition des dinosaures, on va avoir une explosion qu'on appelle radiative. Une explosion radiative, c'est-à-dire une augmentation considérable du nombre de familles, de genres, de mammifères, ici. Et une explosion radiative des oiseaux aussi. C'est-à-dire, quelque part, les survivants profitent de la crise. Ça s'explique assez bien que ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Quand dans un environnement, il y a de grandes populations, eh bien, la dérive génétique est assez atténuée. Par contre, quand on a des petites populations, très vite, la dérive génétique va avoir un impact important. C'est-à-dire que sur une petite population, le fait que je donne ou pas un caractère à ma descendance par le fait du hasard, ça va très vite faire aller dans un sens ou dans un autre. Et de la même manière, quand on a une pression de sélection naturelle importante, vous imaginez les petits mammifères par rapport aux dinosaures, là, hein, bien quand on va alléger considérablement la pression de sélection parce qu'il y a moins d'individus et parce qu'il n'y a plus les individus dominants, on va dire ça comme ça, on va pouvoir avoir une diversification beaucoup plus grande des espèces. Donc on comprend aujourd'hui l'évolution comme des moments assez longs où l'évolution se fait à la suite d'innovations génétiques brassées par la reproduction sexuée, sélectionnées par la sélection naturelle. On parle d'équilibre comme ça pendant longtemps. Et d'équilibres qui vont être ponctués par les crises biologiques qui vont déclencher, à la suite, une accélération des processus évolutifs. Alors, ces crises biologiques, c'est assez intéressant à étudier parce que c'est un exemple de ce qu'on appelle le couplage des événements géologiques et biologiques. C'est-à-dire que ce sont des événements géologiques qui vont être à l'origine de ces crises biologiques. Alors, ça peut être des éruptions volcaniques intenses, ça peut être une chute de météorites, ça peut être des variations de niveau de la mer, probablement. Pour la crise Crétacé-Tertiaire, tout est à peu près mêlé. L'éruption volcanique, elle est assez bien datée. La chute de la météorite, elle est bien connue. On a un cratère au large du Mexique, au Chicxulub. Et on a aussi une diminution nette du niveau de la mer, donc une modification des rivages. Voilà. Donc un couplage des événements biologiques et géologiques. L'évolution de la Terre accompagne l'évolution de la vie. Alors je fais attention à l'heure, j'ai débordé. Ça va? Je voulais juste finir le panorama du programme de terminale par deux autres exemples. Vous étudiez, peut-être en ce moment, on finit souvent l'année par le système immunitaire. On peut regarder la défense de l'organisme aussi sous l'angle de l'évolution. C'est-à-dire que finalement, vous voyez que la stabilité de l'organisme, C'est un peu comme la stabilité de la biosphère qui s'accompagne de la variation de ses espèces. C'est parce que les espèces changent au cours du temps que finalement la vie se maintient sur la planète. Eh bien, notre santé, notre bon état de santé, est lié à la capacité de notre système immunitaire à changer et à s'adapter aux agressions du milieu extérieur ou aux dérèglements internes à l'organisme. C'est-à-dire que notre système immunitaire, finalement, il est composé d'un système qu'on appelle inné, des défenses qui sont constitutives de l'organisme que l'on a dès la naissance. Je pense aux macrophages, aux monocytes, aux polynucléaires, tous ceux qui sont capables de faire la phagocytose, et qui reconnaissent comme ça un certain nombre d'éléments étrangers qu'ils éliminent en les englobant, en les digérant. Ça, c'est une défense innée qui est commune à bon nombre d'espèces vivantes, pratiquement à tous les animaux. Et chez les vertébrés, on a en plus un système de défense que vous avez ici schématisé, qui est un système de défense acquis, qui fait intervenir les lymphocytes B, qui vont permettre la production d'anticorps, et les lymphocytes T8, qui vont permettre la défense des populations cellulaires en tuant les cellules infectées ou, par exemple, tumorales. Eh bien, il faut savoir que ce système-là n'est présent que chez les vertébrés. Et ce système, il est lié aussi à des innovations génétiques. On a pu montrer que les molécules, les anticorps, les membranaires, les récepteurs à la surface des lymphocytes sont issus de familles multigéniques, comme on l'a vu pour les gènes homéotiques, comme j'en ai parlé pour l'hémoglobine. Et ça, c'est une acquisition, en fait, une acquisition des vertébrés. Voilà. Je vais m'arrêter là, j'ai dépassé 10 minutes. Hein. Puis, si vous voulez, on peut continuer sur l'immunologie avec des questions.
Oui, ben on va peut-être passer effectivement aux questions. Moi, je m'aperçois que le programme a bien évolué en 20 ans. Oui, qu'il y a une évolution. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je donne le micro. Profitez-en, ne soyez pas trop timide. Non, il n'y a pas de point à éclaircir.
Je voulais savoir en fait si la sélection naturelle, elle n'était pas due aussi à l'environnement de l'animal.
Alors, la question est de savoir le lien entre l'environnement et la sélection naturelle. Alors, la sélection naturelle, pardon. Je l'ai présenté ici d'une manière un petit peu originale, justement pour susciter les réflexions sur le sujet. On a l'habitude toujours de présenter ça comme l'action de la pression de l'environnement sur l'individu. Effectivement, c'est le cas courant, par exemple, de la relation au prédateur. On a dû vous parler de l'exemple, par exemple, je prends comme ça les escargots des haies, ça a été très étudié. On s'est rendu compte qu'on avait une relation entre finalement l'aspect de la coquille et le milieu qui permettait comme ça à l'escargot de se fondre dans le milieu et donc il était moins mangé et donc comme il était moins mangé, il transmettait plus ses gènes. Effectivement, il y a cette pression de l'environnement sur les populations. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette pression du milieu fait que certains vont se reproduire plus que d'autres. C'est vraiment ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce qui se transmet sont les gènes. Et les gènes, ils se transmettent comment ? Ils se transmettent par la reproduction. Donc en fait, une population va changer au cours du temps si certains individus vont avoir plus de descendants. Alors il y a deux manières d'avoir plus de descendants. Il y a avoir des caractères qui font qu'on se reproduit plus. C'est l'exemple que je vous ai donné. Ou il y a survivre plus longtemps pour avoir le temps d'en avoir plus de descendants. Et en fait, l'exemple de pression de l'environnement, c'est ça. C'est que en ayant une survie plus longue, on peut avoir plus de descendants et transmettre plus ses gènes. Donc il y a bien une action de l'environnement, mais cette action, elle est sur la population. J'ai pris cet exemple-là pour vous éviter une confusion qui est fréquente. C'est l'idée de dire que l'environnement va provoquer la mutation. Très 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 souvent dans l'esprit des élèves, on a cette idée qui est en fait très ancienne, hein, de la pression de l'environnement qui fait changer l'individu. Alors l'idée classique, c'est la girafe, elle a eu un cou plus long parce qu'elle a vécu dans un environnement où il fallait qu'elle aille manger des feuilles un petit peu plus haut sur les arbres. Donc en fait, son cou s'est allongé au cours du temps et puis elle a transmis son caractère à sa descendance. C'est une idée qu'on a depuis très très longtemps, ça, et les idées qu'ont bon nombre d'élèves. En fait, pas du tout. Pour le coup de la girafe, il faut imaginer que dans la population de girafes, il y a une grande diversité. Certaines ont un cou long, un cou plus court. Il y a des grandes girafes, des petites girafes. Hein, et que l'environnement a sélectionné celles qui permettaient de manger, de survivre et donc de se reproduire davantage. Hein. L'environnement joue en triant parmi les possibles. Mais les possibles, l'origine de tous ces possibles, on l'a vu, les mutations, la création de familles de gènes, la diversification génétique par le brassage génétique. On sait aujourd'hui qu'il y a même d'autres mécanismes qui créent de la diversité comme ça. On s'aperçoit par exemple que nous avons dans nos gènes à peu près 10% de génomes de virus. Et quelque part, les virus, en intégrant dans nos gènes des séquences nouvelles, sont un facteur d'évolution, créent de la diversité chez un certain nombre d'individus. Voilà. Une diversification est parmi tous les possibles formés la sélection de certains par la reproduction.
Une autre question peut-être ?
Oui, ce que vous avez dit, ça sous-entend que le moustique anglais est incapable de changer de métro, de prendre une correspondance.
En tout cas, pour le coup des correspondances, moi j'ai lu un article où justement on montrait que les populations de moustiques qui étaient dans les grandes stations de métro, l'équivalent du Châtelet par exemple, hein, là-bas, étaient... compatibles en fait, pouvaient se reproduire les uns avec les autres. Mais ceux qui étaient loin dans la ligne, ceux-là, en fait, non.
Ah, les grillons parisiens.
Ah, grillons parisiens, j'ai pas vu d'études génétiques sur le sujet. Ouais. Voilà. Ça serait intéressant.
Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la séance. Merci beaucoup, Vincent Hubert.
Peut-être un tout petit conseil pour vos révisions hein, que j'aime bien donner à mes élèves. Vous voyez, le programme, en fait, je l'ai mis un petit peu dans tous les sens là. Et on a sauté d'un chapitre à l'autre. Je crois que c'est comme ça qu'il faut que vous prépariez vos révisions. C'est beaucoup plus efficace d'essayer de donner du sens à ce que on vous a raconté pendant l'année plutôt que d'apprendre chapitre par chapitre. Hein. La bonne méthode, c'est d'essayer de donner du sens et essayer de comprendre en fait comment on se lie les chapitres les uns avec les autres. Voilà. On apprend mieux quand on comprend le sens des choses. Ça, c'est très important. Et l'autre bon conseil, si vous voulez réviser efficacement, c'est la technique de la boîte à chaussures. Là. Vous allez mettre tout un tas de sujets possibles dans une boîte, et puis tous les jours, vous tirez un papier, et vous travaillez ce sujet-là. Et petit à petit, en donnant du sens, et en travaillant comme ça, non contextualisé, vos cours, les révisions vont aller beaucoup plus vite. Il n'y a rien de pire que d'apprendre son cours d'une manière linéaire sur ses feuilles de cours, parce que le jour où vous allez passer le bac, vous n'aurez plus votre cours. Vous savez, c'est comme ces chansons qu'on entend tout le temps, là, et on l'entend à la radio, on est capable de la chanter. On éteint la radio, on vous demande de chanter la chanson. C'est plus difficile de se rappeler de toutes les paroles. Hein ? C'est exactement le problème au niveau des révisions, c'est qu'on a tendance à apprendre sur son cours, et donc on mémorise des phrases, on mémorise des contextes, et puis quand on n'a plus son cours, on a du mal à remobiliser tout ça. Pour s'entraîner, il faut s'entraîner dans les conditions de l'examen, c'est-à-dire décontextualiser. Essayez justement soit de raconter des histoires comme je vous l'ai fait là, soit de traiter des sujets pour les sujets eux-mêmes. Voilà, un sujet par jour. On essaie de le faire. Si on n'y arrive pas, on cherche dans les cours ce qui permet de répondre à ce sujet-là. Et là, vous irez vite.
Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que les séances sont enregistrées, donc vous pourrez la réécouter très vite sur notre site. Rubrique archives sonores. Et puis par ailleurs, donc on vous a donné des petits questionnaires, ça serait bien de les remplir, ça prend quelques minutes. Et puis je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine, ça sera la dernière séance Objectif Bac consacrée à la géographie. Merci.